Les nuits de France Culture.
Le restaurant. Un lieu de plaisir, de cuisine, d'échange, de dégustation, mais aussi d'évaluation. Car oui, les restaurants, et en particulier les restaurants de prestige, sont soumis à une évaluation constante de la part des clients, certes, mais aussi et surtout des inspecteurs des divers guides gastronomiques. Au premier rang, le guide Michelin et ses mythiques étoiles, qui font et défont les destins des grands chefs. Institution relativement secrète, au fonctionnement interne opaque, les inspecteurs du guide Michelin doivent rester anonymes et mener à bien leur mission dans le secret le plus total. Il y a aussi par exemple Goemio, qui lui propose un système de notation bien plus classique et accessible, une simple note sur 20. Alors comment noter objectivement un restaurant, en faisant abstraction des préférences personnelles, des circonstances particulières de telle ou telle visite ? Voilà une question bien riche que se posent les lecteurs, les clients et surtout les chefs. Car être un grand chef, ce n'est pas seulement un travail quotidien d'une exigence sans pareille, mais c'est aussi la pression constante de l'évaluation, devant laquelle on se sent parfois impuissant. Si gagner une première étoile marque le début d'une aventure gastronomique excitante et annonce l'arrivée certaine d'une nouvelle clientèle, la perte d'une étoile déclenche souvent un cataclysme interne, une remise en question sur le mode de l'angoisse et de l'anxiété. Ce quatrième et dernier épisode de la série de Laure Adler et Bruno Sourcy sur les plaisirs de la bouche pour les nuits magnétiques revient sur la magie et les contraintes du restaurant, avec des grands chefs comme Jules Bourdeau et Bernard Loiseau, mais aussi des critiques gastronomiques, comme Michel Grisold et Philippe Coudert. On y entend même, chose rarissime, un inspecteur du guide Michelin. Une émission diffusée pour la première fois le 1er janvier 1988.
Avec une carte et un menu. Au menu, on aura une salade de haricots. Pour suivre, on aura une frite et un foie chaud.
Ouais.
La frite menu, bien sûr. Ouais. La frite menu. Une frite menu et un foie chaud carte.
Nuit magnétique, les plaisirs de la bouche, numéro 4.
On mangeait très très bien, on s'appelait carrément une entrée. Mais oui, une entrée. Puis alors, c'est un bon plat du jour, copieux, c'était pas ça. Et puis en général, c'était salade, donc c'était fromage ou dessert, il n'y avait pas autre chose. Et puis alors, toujours la nuit de demain. Et puis il y avait du pain, et puis du gros pain. Parce que tu n'y pas le pain de pain luxe, il avait du gros pain. Ah mais s'il faut en tenir compte de ça, ça n'existe plus ça.
Moi je n'ai pas la mentalité d'un restaurateur. Je n'ai pas beaucoup, vraiment beaucoup de copains dans le métier, à part quelques-uns. Je peux les compter, les copains, les vrais copains dans le métier, sur les doigts d'une main. Il n'y a pas des masses, ils sont tous jaloux les uns des autres. C'est pourquoi moi j'ai pas la mentalité de restaurateur. Si j'étais comme ça, je serais milliardaire, alors qu'il est certainement depuis 20 ans que je fais ce métier-là, je serais milliardaire.
Certains affirment que le lait des vaches noires serait plus blanc que celui des autres vaches. Au siècle dernier, des gourmets ne mangeaient que des poissons pêchés à l'aube parce que le repos de la nuit et l'absence d'émotion rendent plus délicate la chair de l'animal. Il n'y a pas si longtemps, les chapons du Mans étaient élevés dans des cabas suspendus au mur d'un lieu obscur, nourris avec des boulettes de farine d'orge, de millet et d'avoine, de dragées à l'anis et au musc. des êtres sans sexe, immobiles, gonflés de nuit et de parfums. La cuisine est une chose bien trop agréable pour être mêlée à l'horreur. Mais il faut savoir accepter les faits. Pour commencer n'importe quelle histoire de cuisine, le crime est inévitable. Au meurtre, donc, il y a le meurtre par étouffement, le meurtre par assainement, le meurtre par strangulation, le meurtre par incision. Il s'en passe des choses avant la cuisson. Mais du meurtre à la détection, il n'y a qu'un pas. Remontons donc la piste. Le restaurant la première fois avec toi. La tente, la nappe blanche, les mains qui s'effleurent, le vin dans son manchon, les lèvres mouillées, le goût dans la bouche, le restaurant. Il faut manger, disent les mères. Plus tard, il faut réapprendre le plaisir. Les plaisirs de la cuisine, dit Grimaud de la Reynière, sont les premiers que l'on éprouve, les derniers que l'on quitte et ceux que l'on peut goûter le plus souvent. Aimer manger, aimer, les plaisirs de la bouche, Bruno Sourcy, Laure Adler. Ce soir, dernier service au restaurant. Tout d'abord, Robert Vifian, Tandine.
Ce que les gens recherchent le plus, en fait, c'est le plaisir. Et je crois que la cuisine est le plaisir, probablement le plus quotidien. Parce que les gens mangent ou boivent entre 2 et 4 fois, enfin disons entre 1 et 4 fois par jour, dépendant de leur appétit, de leur argent ou n'importe quoi. Donc ce sont des choses qu'ils maîtrisent pratiquement depuis qu'ils naissent.
Problème métaphysique de la grande cuisine. Les chefs ne se prennent-ils pas trop pour des chefs? Réponse de Michel Crisol, critique Goémillon.
Le problème d'un chef qui devient un chef d'entreprise multinationale à succursales diverses, c'est qu'il est plus souvent dans l'avion et en représentation qu'en cuisine. Donc à ce titre-là, il devient un personnage emblématique, il devient le représentant d'une région, d'une cuisine, d'un nom, d'une marque. Mais c'est vrai qu'il n'est plus vraiment un chef, quoi. Un chef, c'est quelqu'un qui fait de la cuisine, on ne peut pas en sortir, hein.
Alain Chiffre, écrivain, journaliste, spécialiste des faits de société, gourmand depuis longtemps et qui a signé il y a quelques semaines un article désopilant dans le Nouvel Observateur qui stigmatisait la prétention des grands chefs et qui s'intitulait « Et le coq au vin, bordel ?»
Un cuisinier star, c'est quelqu'un qui vend du thé s'il est français, du chocolat belge s'il est suisse, etc. Non mais je dis ça, mais c'est vrai, hein. C'est quand même marrant que Bocuse signe du thé aux Japonais. Les Japonais, dans certains magasins, achètent du thé signé Bocuse. Je trouve ça formidable. Guérard vend du chocolat belge aux Américains, etc. Un cuisinier star, c'est quelqu'un qui signe. Et s'il a signé, ça se vend. Pour moi, c'est ça, en gros.
Si les cuisiniers stars existent, les critiques gastronomiques stars, aussi Philippe Couder, ex-Minute, actuellement Nouvel Observateur.
Un grand chef pour moi aujourd'hui, ça doit être un chef qui d'abord a une formation classique. Je ne suis pas du tout passéiste, mais je suis plutôt traditionnaliste. Et tous nos grands chefs que l'on dit modernes, qui sont devenus très médiatiques, dont la presse française a fait des vedettes, puis la presse américaine a fait des stars, ont tous une formation classique. Et puis, il y a les faux grands chefs. Ceux que nous avons lancés aussi de la même manière, faut l'avouer, parce qu'il y a eu un phénomène de mode des cuisiniers, comme il y a eu un phénomène de mode des coiffeurs et des couturiers. Vous savez, il y a 20 ans, on parlait des déplacements d'Alexandre, grand coiffeur, quand il allait coiffer une princesse au Maroc. Aujourd'hui, il continue à y aller, plus personne n'en parle. Or, les cuisiniers ont vécu une époque dorée, c'est vrai. Maintenant, elle est un peu en train de se tasser. Le grand public en a un peu assez d'entendre les états d'âme des cuisiniers. Donc, vous me demandez ce que doit être un grand cuisinier. C'en est un qui doit avoir une formation classique, c'est-à-dire qui repose sur des valeurs, comme un grand écrivain peut apprendre l'alphabet, la grammaire, et puis lire ce qu'ont écrit les autres avant lui, et bien d'autres. Or, il y a aujourd'hui un grand nombre de soi-disant grands cuisiniers qui ne sont que des copistes de ces authentiques grands dont je vous parle, qui, eux, ont une formation classique. Or, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un des drames de la cuisine qu'on a dit nouvelle, qui était intéressante, d'ailleurs, de la cuisine moderne et contemporaine, c'est qu'elle se copie facilement. Donc, c'est qu'elle porte en elle sa propre destruction. Parce que ceux qui copient, ils ont appris par cœur, comme des perroquets, mais ils ne sont pas capables de créer. Seuls, à mon avis, sont capables de créer ceux qui ont cette formation traditionnelle qui est celle de tout le monde. Il faut bien apprendre avant ce qu'ont fait les anciens pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Voilà pour moi la définition de l'authentique grand cuisinier, qui peut être moderne ou passéiste, au choix, mais il faut qu'il sache exactement ce qu'est la base de son métier, et ça devient très rare. Il faut vraiment avoir appris. On peut apprendre à l'école, c'est évident, mais je pense qu'en cuisine particulièrement, l'expérience compte, et puis surtout, il faut un véritable talent. Pour certains, je dirais presque un génie, pour autant qu'un artisan puisse avoir du génie, il faut un certain génie. Parce que, en définitive, avec tous les livres de recettes qu'on voit actuellement, aucune recette n'est secrète. Tout le monde devrait être capable d'être un grand cuisinier. Si on suit un livre de recettes, or pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Parce qu'il y a un don, c'est-à-dire c'est la façon de sentir les choses, les produits, de sentir comment un feu chauffe un peu plus ou un peu moins, savoir arrêter ou garder quelques minutes de plus. Donc je crois que la grande expérience que peut avoir un jeune cuisinier, un jeune apprenti, en regardant un grand, d'abord il sait, il connaît justement, il apprend cette base, les choses principales, son alphabet, si j'ose dire, son alphabet de cuisine. Et puis ensuite, son talent même peut se révéler, mais une fois qu'il a vraiment tout acquis. Il sait où il va, parce que faut pas oublier que la cuisine, c'est quand même de la chimie, et qu'on ne peut pas inventer pour inventer. Vous savez, en chimie, on peut, si on veut mélanger un certain nombre de choses qui ne sont pas faites pour mélanger, ça vous saute au nez. Or, en cuisine, ça donne un plat ridicule, parce qu'aujourd'hui, on a affaire à ce que j'appelle les précieux ridicules et tristotins de la cuisine.
Quelles sont les règles à observer pour rester un grand cuisinier?
Que la tête continue à bien tenir sous la toque. Parce qu'aujourd'hui, on voit vraiment des têtes qui enflent et ça devient insupportable. Je respecte beaucoup les grands cuisiniers qui sont souvent des gens de très grande qualité pour leur métier et qui peuvent, bien évidemment, comme tout homme ou toute femme honnête, avoir des curiosités surtout. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de grands cuisiniers qui ont été saisis par la débauche de la célébrité. Et c'est dramatique parce qu'ils prétendent régenter de tout. Ils prétendent philosopher, ils prétendent donner leur point de vue sur tout. À la limite, ça tient du café du commerce, mais c'est un peu irritant parce qu'ils finissent par passer plus de temps à donner leur avis sur quantité de choses dans lesquelles ils ne sont que des béotiens, alors comme s'ils avaient soudain honte d'être cuisiniers. D'ailleurs, il y a un grand, grand cuisinier, actuellement, je ne vais pas donner son nom, d'ailleurs, ce serait méchant, puis ce n'est pas utile, là, ce n'est pas une émission méchante, pour une fois, je vais changer de ton, qui est maître cuisinier. Maître cuisinier, c'est un titre de corporation, pratiquement, comme il y a des maîtres ébénistes, comme il y a des maîtres maçons, et c'est fabuleux, c'est merveilleux. Or, j'ai vu dernièrement une publicité au Maroc, où il annonçait un repas, et il avait supprimé le mot cuisinier, c'est-à-dire il annonçait le repas sera préparé par le maître. Non, où est-ce qu'on va? D'ailleurs, c'est le même qui prétend discuter de la sexualité des fours à micro-ondes. Alors là, ça devient ridicule, il devient indigne de son métier de cuisinier.
Le canard aux oranges. Une aile. Et puis, une cuisse.
Il n'a ni four, ni micro-ondes, mais un fourneau. Connaisseur du chapon et de la langouste, amoureux de son métier qu'il pratique comme une vocation depuis 70 ans, Jules Bourdeau vit dans son restaurant, dans l'île Saint-Louis, à Paris. Décembre 87, 5h du soir, la nuit tombe. Jules, d'abord bougon, nous reçoit au Gourmet de l'île. Il est méfiant et croit qu'on va lui demander de l'argent parce qu'on vient l'interviewer. Ses souvenirs, le passé, son passé, Jules Bourdeau.
La cuisine, elle a commencé en 1917. Je suis né en 1903. Enfin, je suis marqué en 1903, mais je suis en réalité né le 1er janvier 1904. Mon père, qui était assez futé, et pensant que ça pourrait m'arranger et pour mes examens et pour partir au régiment, m'avait fait enregistrer 2 jours avant. C'est tout. Alors à ce moment-là, pourquoi ça se situe là ? C'est que mon père, à ce moment-là, a créé un restaurant, 6 Place Saint-Michel, qui existe encore. Alors ma mère, naturellement, au bout de 2 mois, ne pouvant plus m'élever, on m'a expédié en Corrèze, chez ma grand-mère, qui tenait une auberge à Argentat. Ça s'appelle le Tivoli Argentat, ça fait 200 ans d'existence. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte encore après ? J'ai commencé à faire mon métier dans certains restaurants. J'avais en principe trois oncles qui étaient installés à Paris à l'époque, y compris mon père, ça faisait les 4 frères Bourdeau qui étaient installés à Paris. Un comment s'appelle-t-il ? 6 Place Saint-Michel. Un, sur la butte, le restaurant des chasseurs. Un, rue de la Bastille, en face, juste de chez Beaufinger. Et puis le troisième, actuellement, qui n'existe plus, qui était avenue des Ternes, mais qui n'existe plus à ce moment-là. J'ai fait 2 ans d'apprentissage à droite et à gauche. Et puis un beau jour, j'ai eu un coup au cœur parce que mon père m'a fait sortir. Il me disait, mon vieux Jules, nous n'avons plus d'argent en ce moment, il faut qu'on se rétablisse. On s'est rétabli et on a acheté à ce moment-là, le 27 février 1927, le restaurant Au Gourmet de Lille, qui est toujours Au Gourmet de Lille, tellement ça, et qui appartenait à M. Doucet. Alors je suis resté là jusqu'en 1939, tellement ça. Et à ce moment-là, je me suis permis de pouvoir créer, de acheter 2 autres restaurants. Avant cette guerre-là, j'avais 3 restaurants. Je gérais 3 restaurants à ce moment-là. C'est tout.
Mais qu'est-ce que vous avez appris au tout début, là, quand vous étiez en apprentissage ?
J'étais dans l'apprentissage, mais n'importe comment, si ça peut vous intéresser, étant donné que j'étudiais à Argentat, j'étais à l'école communale à Argentat, je venais passer mes vacances à Paris avec mon père, et quand il avait oublié de me réveiller à 6h du matin pour les sandoals, je ne lui parlais pas de la journée. J'avais déjà tellement de sang dans la peau, je ne sais pas si vous réalisez ça. J'avais le sang dans la peau, et puis je voulais faire restaurateur, c'est tout. Mais surtout la cuisine et la salle. Alors ça me plaisait tellement, je ne sais pas si vous réalisez ça. À ce moment-là, j'ai gagné 300 francs par mois, j'avais une demi-journée de repos tous les 15 jours, et pas de vacances payées, et pas de sécurité sociale, je ne sais pas si vous réalisez ça. Oui. De 1927 à 1939, je ne me suis jamais pris un jour de repos. Mon père venait me remplacer pendant 15 jours par an, exactement ça. Mais en dehors de ça, je ne me reposais jamais, jamais, jamais. Et je menais quand même la barque pour 3 restaurants, exactement ça. Les Halles, c'était bien les Halles. Moi, j'adorais ça, les Halles. Il fallait se bagarrer. C'est comme actuellement, je m'en vais demain. Demain, je m'en vais à Rungis parce que je suis fermé actuellement le lundi et le jeudi. Et j'ai fait tous mes achats à Rungis, exactement ça. Pour servir le repas cher à 100 balles, si je n'achetais pas vraiment directement au gros, je ne pourrais pas y arriver, exactement ça. Vous comprenez ça. Et puis, c'est la bagarre. Pour 50 centimes de poids sur un kilo d'artichaut, je fais 200 mètres ou 300 mètres ou 400 mètres. Nous tournons actuellement à 100 kilos d'artichaut la semaine ici. Je ne sais pas si vous réalisez, à éplucher. Tout est frais chez nous, tout, absolument tout. Je ne fais que des bons fruits, tout ça. On fait nos compotes, on fait ma tarte. Mes tartes sont faites par moi. Mes terrines de foie de volaille, c'est moi qui les fais. Je fais énormément de choses. J'ai vraiment un excellent chef actuellement, ça, qui me donne un sérieux coup de main. Et puis tout le monde s'y colle actuellement chez moi, ça. Tout le monde s'y colle. Et si ça peut vous intéresser, depuis que je suis ici, depuis 1963, j'ai 5 employés qui m'ont quitté. Vous savez pourquoi ? Pour s'établir. Ça vous dit rien, ça, comme référence, non ? Et puis mon père a fait pareil, attends ça. Eh oui, mon père est monté à pied du pays, je ne sais pas si vous réalisez ça, là-bas, à pied, avec ses sabots, pas d'argent en poche. Et puis il a mis 15 jours pour faire Limoges-Paris, exactement ça. Il s'arrêtait dans les fermes, actuellement, il offrait son travail pour une botte de paille ou une botte de foin et le casse-croûte. Et puis il partait après, mais on ne voulait pas le relâcher à ce moment-là, ça. Il est parti, il était gonflé à bloc quand il est arrivé, exactement ça. À ce moment-là, il y avait la misère chez nous, là-bas. Ils étaient huit. Il y avait 2 filles et puis 6 garçons. Alors, à ce moment-là, fait monter mon père qui est monté le premier. Il s'est vivement accommodé, et puis il a fait venir 3 frères. Et à ce moment-là, ils sont installés les uns après les autres. Ça vous dit rien, ça ? Parce qu'ils s'y collaient au boulot, tellement ça, vous savez. De 6h du matin à 10h du soir, il n'y avait pas un jour de repos. Ils s'y collaient carrément au boulot, ça. Mon père était un crack pour les achats, vous savez, il m'a vraiment légué ça. C'était tellement bravo, moi, tellement ça. Vous savez ce que c'est, on a critiqué les Rungis, mais c'est bien mieux pour nous autres actuellement ça, que les anciennes halles. Parce qu'aux anciennes halles, je mettais plus de temps, moi, de la rue Pierre de Mour, de descendre aux anciennes halles, que d'aller carrément là-haut, puis de revenir ici. Parce que là, puis, quand il pleuvait, ça, la marchandise était dehors, les épinards étaient mouillés, la salade était mouillée, tout était mouillé. Non, mais on rigolait, mais. Et puis non seulement ça, mais ils vous mettaient bien ce qu'ils voulaient, les types. Actuellement. Maintenant, dis, donne-moi ça. Donne-moi ça. Je choisis ce que je veux, tellement ça. Et puis c'est tout. Je paye et puis je m'en vais. Je n'ai que ma marchandise que j'ai vraiment choisie. Mais dans ce temps-là, ils me donnaient ce qu'ils voulaient.
Mais vous aviez vos fournisseurs, non?
Mais oui, mais j'ai même fournisseurs, mais il y avait des bons et des mauvais fournisseurs, tellement ça. Le jour où il n'y avait pas beaucoup de marchandises, ils vous serraient la gorge. Et les jours où il n'y en avait pas beaucoup, c'était l'inverse. Ben oui, on leur rendait l'appareil.
Mais on pouvait marchander.
Oh là là, qu'il dites-vous. Si on peut marchander. Bien sûr qu'on peut marchander. Bonsoir. Bonsoir. C'est les employés qui arrivent. Non, ça. Par exemple, tiens, je vous dis, c'était le cas. Il y a un de mes gars qui allait chercher des artichauts toujours. On les payait 12 et 14 francs. Alors s'il me dit, j'ai dit, des artichauts, t'as pas dû les payer trop cher. Il me dit, non, je les ai payés 6 francs seulement. Entre 6 francs et 14 francs, combien ça fait quand on prend les 50 kilos? Combien ça fait? Vous comptez, calculez bien un petit peu ça? Avec les prix qu'on change. Maintenant, si ça peut vous intéresser encore, vous pouvez le noter. Je suis resté pendant 15 jours. J'ai acheté mes artichauts 45 francs le kilo, plus cher que de la viande. Mais il m'en fallait absolument parce que ma religion me défendait de plus d'autres choses que des choses. J'ai acheté pendant 15 jours 45 francs le kilo. Ça veut dire ça? D'avoir bien acheté. Je rentre des Halles, j'ai bien acheté, je suis content. J'ai réalisé un bon score pour moi, puis alors n'importe comment, même pour les clients, parce que la marchandise est toujours impeccable. Vous savez, je ne triche pas, et tout ça. Vous savez, quand je fais des palettes de porc, justement, je les dégraisse intégralement. Avec la graisse, je fais mes terrines de foie de volaille. Et c'est tout. Ben oui, c'est tout. Ah, j'en ai fait dans ma vie des artichauts, vous savez. Et ça, c'est un souvenir de mon père. Il travaillait tellement là-bas. Il employait énormément de choses, des boîtes de 5 litres de tomates concentrées, vous savez. Il les gardait précieusement. Et quand il y avait beaucoup d'artichauts, parce que nous avions à ce moment l'artichaut de Paris, qui était aussi bon que l'artichaut breton. Aussi bon. Alors, il les faisait tourner, il les mettait dans ses boîtes et puis il les stérilisait. Puis, quand un dimanche il faisait beau, il sortait ses fonds d'artichauts. Mais comment ça se fait qu'il y a les artichauts, ben, que vous voyez. Quand il y en avait, on les a mis en boîte et puis roulait ça maintenant. Alors, ça leur faisait plaisir aux gens, exactement ça. Ça court pas les rues des artichauts comme ça, comme on leur fait, vous savez. Les gens qui mangent des artichauts, ils ne sont jamais mécontents, mais au contraire. Mais nous, ils en ont plein l'assiette, vous savez, un bel œuf de. C'est tout. Voilà. Et qu'est-ce que je vous dis encore? Vous en avez quand même un paquet, là. Vous allez pouvoir faire des tris.
Jules Bourdeau, 83 ans, n'est pas passéiste, mais il préfère le temps de la cuisine de son papa, les années 20.
C'était la cuisine ancienne, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de grande cuisine, exactement ça. On servait les gens copieusement et proprement. C'était pas servi quand même au compte-gouttes, comme actuellement. Des grandes assiettes, des belles assiettes, et puis rien, de la merde dedans. Excusez-moi, j'aurais pas dû le dire, ça, si, ça fait rien. Ça fait rien, c'est tout. C'est tout. Actuellement, vous comprenez. Moi, je fais encore de la vieille cuisine, exactement ça. Et j'ai des gens qui viennent de tous les pays du monde. J'ai eu des coups de téléphone en direct de New York pour des réservations, de Londres, de Berlin, de Bruxelles, un petit peu partout, tellement. Si vous voyez un petit peu ce que j'ai sur, mais sur tous les guides, j'en ai un paquet qui gros comme ça. Ça vous dit rien, ça? C'est pourquoi je reste dans le coin, vous savez. On dit, pourquoi tu lâches pas? Pépé, pourquoi tu lâches pas? Parce que je ne veux pas lâcher. Oui. Tout était très, très bon. Mon père allait tous les jours au Hall, tellement ça. Il connaissait parfaitement tout. C'est lui qui préparait sa viande, qui préparait tout, tellement ça. Et puis, les langoustes. Si ça peut vous intéresser, comment dirais-je, les langoustes. De 1931 à 1939, à la saison des langoustes, je passais rue Pierre de Mour une tonne, je dis bien une tonne, de langoustes par mois. Oui. Mon maximum, ça a été un jour de Grand Prix, hein, à Longchamp, exactement ça. 50 kilos dans la journée. 50 kilos dans la journée. J'avais les mains en sang tellement j'avais cassé mes grosses langoustes, exactement ça. Alors, c'était là. Et puis les gens qui venaient, donne-moi une belle langouste. Alors forcément, on était un peu plus, quoi. Les copains, on pouvait quand même les servir. On servait d'ailleurs tout le monde très très bien, ça. Mais manger des langoustes, exactement ça. Alors, ils mangeaient à ce moment-là pour 7-8 francs avec une belle langouste. Hein? Et tout, c'était comme ça. Et puis mes vins, actuellement, ça. Sont, comme prix, actuellement, je pense pas qu'on puisse faire mieux, actuellement, comme prix. Je vends une bouteille de champagne 140 francs. Mon vin le plus cher actuellement est à 60 francs, le plus cher de mes vins. Le plus cher de mes vins. N'oubliez pas que là-dedans, il y a 15% de compris, y ajouter quand même 2,50 francs pour les cartes bleues. Parce que les cartes bleues nous prennent 2,50 francs, pour, vous êtes au courant de tout là. Et bien si vous tenez compte que ça fait quand même pas cher ça. Un repas 100 francs moins, ça fait combien? Ça fait moins de 85 francs. Alors vous avez pour 85 francs, comment dirais-je? Une entrée chaude ou froide. Actuellement, il y a ma terrine en question, mais je n'en parle pas. Les fonds d'artichaut Saint-Louis. Je défends d'artichauts frais, je vous dis, on en fait 100 kilos la semaine d'artichauts. Tous les jours sont tournés par mon personnel, on les cuit normalement, on les sert avec un œuf poché et de la sauce gribiche dessus. Et c'est frais parce qu'il n'y a pas de conserve chez nous. La conserve, c'est pour nous, le personnel. Après, vous avez par exemple du boudin de la Corrèze, exactement ça, avec la marmelade de pomme. Mais c'est pas de la fameuse pomme blanche, comment ça s'appelle là? Jamais de golden chez moi, non, jamais de golden chez moi. Vous avez après des moules farcies, exactement ça. Vous avez la barbe de sapeur, c'est le tablier de sapeur lyonnais. Vous connaissez le tablier de sapeur lyonnais, bon, c'est tout. Vous avez après la salade de bœuf aux lentilles vertes, parce que c'est de lentilles d'auvergne, tu vois.
Depuis,
c'est ça, oui. Oui, vous y connaissez quand même un petit peu, c'est bien ça. Alors, le boudin, la terrine, les filets de hareng sans sel, à discrétion. Alors les gens, ils en sortent, c'est en moins pour jusqu'ici, exactement. Alors après, vous avez un plat du jour. Là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est le plat du jour, y compris un très très bon poisson. Après, une salade de saison avec des cerneaux de noix ou le plateau de fromage. Et après, des desserts maison, y compris la pâtisserie. Tenez, voilà ce que je fais là-bas, ma pâtisserie. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Tout ça pour 100 francs, ça vous dit rien, ça?
Nuit magnétique et les plaisirs de la bouche numéro 4, ce soir, le restaurant. Comme Jules, Fernand s'est formé sur le tas. Cuisinier, star, certes non, il ignore le cirque médiatique pour faire deux fois par jour son métier dans le 11e arrondissement à Paris. Métier amour, métier passion, le témoignage de Fernand.
Moi, je me suis formé, comme je viens de le dire, je me suis formé sur le tas. Bon, pour moi, l'apprentissage, je ne sais pas ce que c'est. Bon, il a fallu que j'apprenne quand même. Enfin, je me souviens ma première pâte feuilletée que j'ai faite, ma première tarte aux pommes, j'avais salé et poivré. Alors ça, bon, bah, c'était amusant. Mais enfin, à l'époque, j'avais une patronne, c'était à l'hôtel du Chapeau Rouge à Château-Landon, en Seine-et-Marne. Une femme merveilleuse, qui c'était une cuisine bourgeoise et... J'ai appris beaucoup, c'est une bonne base, et à partant de là, après, je me suis fait tout seul. Voilà. Moi, j'ai pas ce problème-là, parce que, bon, le problème des cuisiniers, c'est qu'ils sont formés dans la cuisine, bon, ils ont des bases de cuisine, ils ont des bases de, comment je pourrais dire, mais, ils n'ont pas les mêmes bases que moi j'ai pu avoir, parce que moi j'ai touché à tout, j'étais à la ferme, j'ai fait la charcuterie, la boucherie, j'ai fait l'abattoir même. Alors, j'ai pas de problème, je sais découper n'importe quel morceau de viande, je sais traiter n'importe quel morceau de viande, n'importe quel poisson, parce que je travaille aussi dans le poisson. Mais ça, on peut pas être plus complet que moi, je l'étais. Alors, bon, pour les jeunes, c'est... Maintenant, la cuisine est tout à fait différente, malgré tout, un petit peu, on revient peut-être un petit peu au classique, mais maintenant, je pense que c'est plus facile de devenir cuisinier maintenant que ça l'a été il y a X années, il y a une vingtaine d'années peut-être. Les écoles sont très perfectionnées et puis bon, la cuisine change. Ils font des choses beaucoup de la cuisine nouvelle, que je suis pas tellement partisan de la cuisine nouvelle. Quoi qu'il y a 20 ans, j'avais une recette qui s'appelait la caille amoureuse. Qui étaient des petites cailles avec des Saint-Jacques et du foie gras. C'était merveilleux. Bon, on parlait pas de cuisine nouvelle, et sans le savoir, c'en était. Bon, je ne l'ai jamais refaite, la recette. Comme je ne l'ai jamais notée, je ne marque aucune de mes recettes. Bon, bah, des fois, je fais ce qui me passe par la tête, ça me revient comme ça. Voilà, puis bon, c'est tout. Thank you.
Jean Ferniaud, gourmand conquérant, défendant la grande cuisine française en France et à l'étranger, chargé par François Mitterrand d'un institut de la gastronomie qui n'a pas encore vu le jour, mais qui se réalisera sans doute prochainement.
Il n'y a que les grands qui m'intéressent, et j'entends par grands non pas forcément ceux qui sont dotés de 3 étoiles au guide Michelin, mais ceux qui ont une connaissance parfaite de leur métier. Il en existe beaucoup en France, mais je m'empresse de vous dire qu'il y en a encore beaucoup plus chez nous qui ne connaissent pas leur métier ou qui le connaissent mal. Vous savez, les chefs se forment de deux manières, par des écoles ou bien sur le tas. Et notre enseignement culinaire en France devrait être de meilleure qualité qu'il n'est. L'État ne devrait pas y mettre tellement la main. Ce n'est pas une affaire de fonction publique que l'apprentissage de la cuisine. Mais il y a d'autres voies, les stages en particulier chez les grands chefs. C'est la raison pour laquelle, comme ils sont soumis à des demandes multiples, ils favorisent tout naturellement leurs propres amis, leurs camarades, leurs confrères. Ce qui fait que la grande cuisine se recrute dans la grande cuisine et qu'on a beaucoup plus de mal lorsqu'on sort de l'obscurité à devenir un grand chef que quand on appartient à une famille de grands chefs. C'est une corporation fermée, c'est vrai, jalouse d'elle-même, c'est vrai aussi, misogyne. Les chefs n'aiment pas les femmes, ils prétendent que ce métier est trop dur pour elles, c'est complètement faux. Les femmes ont montré qu'elles étaient capables à Lyon, par exemple, dans le passé, de faire une très haute cuisine. Mais ils sont ainsi, ils se protègent de cette façon-là, ce qui est une preuve de faiblesse.
Mais qu'est-ce que les chefs aiment donc ? La mode chez les grands chefs ? Dernière tendance, défilé Alain Chiffre.
Le look, c'est là que c'est très déprimant, c'est là que ça suit terriblement la mode, c'est que le look des restaurants commence à passer presque avant la cuisine, ce qui est même à la limite scandaleux. C'est-à-dire qu'il y a une surenchère. Enfin, avant, il y avait bonne chère, maintenant, il y a la bonne chère et la surenchère. C'est-à-dire que maintenant, il y a tellement de... quand les grands cuisiniers sont devenus des stars, hein, donc lancés par Goemio, hein, Bocuse, etc. Bon, ils étaient 10, hein, il y avait 10 stars. Ces stars ont formé des cuisiniers qui sont devenus des stars en 10 ans. Ces stars formées en 10 ans, maintenant forment des cuisiniers de plus en plus impatients qui veulent stars en 5 ans. Vous vous retrouvez avec maintenant une quantité énorme de jeunes stars, de plus en plus jeunes, qui veulent se lancer très vite, qu'on pousse très vite, que les guides cherchent à les couvrir de plus en plus tôt, parce qu'il y a de plus en plus de guides en même temps. Hein, avant, on vivait seulement avec le Michelin et le Kléber, maintenant, bon, il y en a 5 ou 6. Alors maintenant, il y a une course entre les guides, et qui découvrira le premier ? Si bien qu'on prend les élèves, on les prend encore au berceau, enfin les jeunes chefs, on les monte très vite, on en fait des stars, on les promeut aux États-Unis, au Japon, etc. Pour attirer cette clientèle à devise forte, il faut que ces gens-là aient l'impression de venir à Versailles. On engage des frais énormes, on construit des... Vraiment, en promesse, c'est un truc hallucinant. Maintenant, on ne construit plus un grand restaurant sans héliport, par exemple. Tous y construisent des héliports. C'est quand même assez fou. Vous ne pouvez plus concevoir. Avant, on s'arrêtait. On arrêtait sa voiture pour dîner dans un bon restaurant. Maintenant, il faut absolument qu'il y ait au moins la possibilité de venir en hélicoptère. C'est assez terrible. Alors, bon, voilà. Alors, donc, inflation du décor, ce qui n'enlève pas la qualité de la cuisine. Attention, hein, je ne dis pas qu'on mange de moins en moins bien. Mais je dis que toutes les valeurs qui sont maintenant en hausse autour des gastronomies n'ont rien à voir avec ce qui est vraiment le plaisir de manger. Et puis, tout ça se ressemble. C'est terrible, mais je trouve que ça se ressemble. C'est-à-dire que, paradoxalement, alors que la grande révolution culinaire, c'était de redonner ses droits à la création, de sortir de la routine, je trouve que même si chaque chef a sa personnalité, tout ça se ressemble terriblement. Il y a toujours, bon, les petits légumes, heureusement, ça commence à passer, mais il y a les ravioles. Maintenant, on mange des ravioles partout. C'est sidérant, c'est effrayant. Maintenant, il ne faut plus de sauce, il faut des jus. Avant, il fallait des sauces courtes, maintenant, il faut des jus. Alors, quelqu'un lance l'ail doux et tout le monde mange de l'ail doux, après, partout. Alors là, la grande mode, c'est les sabayons salés, par exemple. En principe, sabayon, c'est un dessert. Maintenant, il faut faire des sabayons salés, des trucs comme ça. bon, etc. Les herbes fraîches, bon. Et tout ça finit par se ressembler.
J'avoue que mon estomac ne s'accommode pas de la nouvelle cuisine. Je ne puis souffrir un riz de veau qui nage dans une sauce salée et ne puis manger un hachis composé de dinde, de lièvre et de lapin qu'on veut me faire prendre pour une seule viande. Je n'aime ni le pigeon à la crapaudine, ni le pain qui n'a pas de mie. Quant au cuisinier, je ne saurais supporter l'essence de jambon, ni l'excès de morilles, de champignons, de poivre et de muscade avec lesquels il déguise des mets très sains en eux-mêmes et que je ne voudrais même pas qu'on lardât. Écrivait Voltaire, âgé de 71 ans, au comte d'Artois. Vous en reprendrez bien un peu, ce n'est pas ce genre de phrase que les chefs vous proposaient au temps de la nouvelle cuisine. Jugement de Michel Crisold, critique Goémillot, et tout d'abord de Michel Piau, critique au Figaro.
Bien sûr qu'il y a des modes, comme il y a des modes dans la chanson, comme il y a des modes dans la peinture, évidemment. Et les modes sont nécessaires. Elles font avancer les choses. Et puis, quand une nouvelle mode arrive, eh bien la précédente passe un petit peu à l'arrière de la scène et il n'en reste que le meilleur. Bon, cette mode de la nouvelle cuisine qui a duré 10 ou 12 ans et dont nous vivons actuellement la fin, elle a été pleine d'excès, mais elle a été nécessaire. Elle a été pleine d'excès parce qu'on est arrivé à des plats complètement ridicules que j'ai symbolisés une fois pour toutes dans un plat complètement imaginaire, bien sûr, que j'appelle la terrine de queue de mouche à la vapeur de verveine. Mais rassurez-vous, personne ne vous servira ça au restaurant, mais certains plats qu'on m'a servis au cours de ces 10-15 dernières années ressemblaient assez, s'approchaient assez par l'esprit de ce que je viens de vous dire. Mais cette nouvelle cuisine a été nécessaire, parce qu'elle a... Elle a sorti les cuisiniers de leur train-train, elle a allégé les plats, elle a touché, quelquefois très heureusement, d'autres fois un peu en apprenti sorcier, au domaine de la diététique. Elle nous a appris, dans le meilleur des cas, à mieux nous nourrir. Et dans le pire des cas, quel a été son plus gros défaut ? Elle a touché au ridicule, mais le ridicule ne tue plus de nos jours, vous savez bien.
C'est curieux, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des modes. Ça paraît un peu paradoxal, mais c'est un métier qui est sur la durée. C'est-à-dire quand vous montez un restaurant, c'est pas comme aller être salarié dans une grande maison ou je sais pas où se fonctionnariser, c'est complètement autre chose. Vous montez un restaurant, vous montez une petite entreprise et vous vous endettez jusqu'au cou. Ça, c'est la première caractéristique. Tout chef commence par être un endetté fantastique. Donc vous vous endettez et ce qui compte, c'est d'avoir un certain succès, une certaine durée, une clientèle en partie fidélisée, en partie renouvelée, et puis une certaine notoriété, parce qu'ils aiment ça, quoi. Bon, souvent, ce sont des... Enfin, pas souvent, en fait, ce sont de fait des autodidactes, au niveau culture générale, ce sont des gens qui ont fait l'école hôtelière. Bon, bah, l'école hôtelière, c'est pas normal supérieur, on apprend à faire la cuisine, l'hôtellerie, etc. Mais ensuite, ils ont tous... Mais vraiment, ça, c'est un milieu qui est très sympathique à cause de ça. Ils ont tous une curiosité très éveillée, ils vont chercher des idées partout, ils ont tous une habitude, ce sont des gens qui, par définition, doivent savoir discuter avec la clientèle. Enfin, le chef qui est enfermé dans sa cuisine et qui veut voir personne, ça n'existe plus, ça. Moi, je n'ai pas été frappé par des phénomènes de mode. Je pense qu'il y a des professions, enfin, je vois beaucoup de viticulteurs, curieusement, les viticulteurs sont beaucoup plus sensibles à la mode que les chefs qui ont une distance. Ouh là là, on ne les a pas si facilement.
On ne les a pas si facilement. Mode, mode, subit-il les modes. Lui, des ravioles, il en fait. Des jus, des purées à l'ail doux, aussi. Des plats sublimes, je peux vous le dire, je les ai goûtés. Bernard Loiseau est un des plus grands chefs actuels. Nouvelle vague, la lame de la nouvelle cuisine en a déboussolé plus d'un, Bernard Loiseau.
Pour moi, la nouvelle cuisine, elle est morte, hein, parce que je ne sais même pas si elle existait. Il y a la bonne et la mauvaise cuisine. Hein. Et la cuisine, si on veut dire qu'il y a de la nouvelle cuisine actuellement, bon, bah, c'est que ça serait plutôt la cuisine classique d'une certaine époque, qu'on a complètement allégée, remis au goût du jour, avec des produits de qualité. Alors si on veut dire que c'est ça la nouvelle cuisine, allons-y, c'est ça. Mais la nouvelle cuisine de faire tout n'importe quoi pour dire qu'on a inventé, de faire du riz de veau kiwi, du homard au chocolat, de n'importe quoi, on fait n'importe quoi, puis manger cru, quoi. On faisait des émincés de magret de canard cru avec du citron vert. C'était génial, ça avait le goût de tout, c'était du buvard, on ne sait pas ce qu'on mangeait, ça avait tout sauf du goût de canard. Alors ça, c'est la nouvelle cuisine. Et puis après, c'est devenu de la peinture. Alors, pour que ça fasse joli dans l'assiette, on mettait tout. Alors on mettait un bout d'agneau, puis on disait, tiens, il manque un peu de rouge. Alors on mettait de la betterave, tiens, il manque un peu de blanc, on mettait de la purée derrière, après il manque un peu de vert. On mettait tout, il y avait 17 sortes de trucs autour qui ne servaient à rien, qui n'apportaient rien au plat. Mais ça, c'était joli. Ah, ça, c'est très beau. Pour faire des photos pour les revues, ça c'est bien. Mais pour le goût, zéro. Donc la nouvelle cuisine, à mon avis, elle est passée de mode. Hein. Et puis, un problème, à mon avis, que moi, personnellement, ça me colle au dos. Bon, parce que j'étais un jeune en effervescence, soi-disant, d'une certaine nouvelle cuisine. Ça me colle au dos parce que les clients disent, à Loiseau, nouvelle cuisine. Alors, addition de 3 mètres de long et rien à bouffer dans les assiettes. Alors ça, je peux vous dire une chose. Ça, je me le traîne, ça. Une casserole que je me traîne depuis un moment. Hein. Parce que déjà, au niveau régional...
Ça peut dire une casserole.
Parce que, croyez-moi, vous prenez ici, du mois d'avril au mois d'octobre, alors nous, on n'a pas de problème, puisqu'on a une clientèle d'élite qui vient du monde entier, de Japon, d'Australie, des États-Unis. Ils arrivent à l'aéroport, à Paris, ils prennent des voitures de location. Vous savez, on envoie, nous, les voitures. Hein. Toutes les voitures avec le petit liseré jaune marqué 1 dessus, on en a aligné tous les jours. Hein. Les voitures de location de chez Hertz. Alors là, on en a en pagaille. Hein. Donc, toute cette clientèle-là, eux, bon, ils sont prêts, justement, à picorer, vous voyez, tout ça. Bon. Mais là, à partir du mois de novembre, où on travaille plus qu'avec la clientèle régionale, et que moi, j'ai besoin de cette clientèle régionale qui vienne nous aider, pas pour qu'on gagne l'argent, mais au moins que ça paye le chauffage, l'électricité, le personnel, qu'on arrive à fin mars et qu'on soit comme ça, ric-rac, qu'on n'ait pas perdu d'argent, qu'on n'en ait pas gagné, mais qu'on n'avait pas perdu. Alors que là, on en perd des sommes fabuleuses. En 3-4 mois, on perd des dizaines et dizaines de millions. Et cette clientèle régionale hésite à venir ici à cause de ça. Parce qu'ils se disent, il n'y a rien à bouffer chez Loiseau, on va sortir avec la faim. Ils vont les manger en face à la pâtisserie ou ils vont aller chercher les gâteaux en sortant de chez Loiseau. Ils disent, on n'a rien bouffé, quoi. Et par contre, alors l'addition, là, boum. Et c'est faux, mais alors totalement faux. Mais ça, ça a été cette fameuse image du. Je m'excuse, mais à certains cuisiniers qui ont fait une fausse nouvelle cuisine et qui, ceux qui la faisaient bonne, eh ben, ils payent la casse des autres. C'est exactement comme Escoffier à une certaine époque, il y a 50 ans, disant, oh là là, c'était nul cette cuisine, c'était graillonneux et tout. Mais si ça se trouve, il y en avait 10 ou 15 qui la faisaient remarquablement et 200 qui la faisaient mal, et les 15 ont porté le chapeau pour les 200, qui fait que la cuisine Escoffier est devenue une cuisine à bannir. Et la nouvelle cuisine, pareil. Vous aviez une élite qui faisait remarquablement cette cuisine, et il y en avait 200 qui étaient autour qui voulaient les singer. Parce qu'ils voyaient que c'était un métier de végétariat, tout ça. Mais ils disaient, mais pourquoi pas nous? Alors ils venaient manger chez nous. Ils voyaient qu'on utilisait 2-3 trucs et puis eux, ils utilisaient à leur façon et tout ça. Et puis ça a dégénéré et qui fait que nous, on paye la case de tous ces gars-là.
Philippe Couder.
Actuellement, il y a une remise à l'heure. Il est temps de renvoyer un tout petit peu les chefs dans leur cuisine, et ce n'est pas péjoratif ce que je dis, mais leur dire, vous avez oublié pendant un certain temps, la présence au fourneau, il faudrait la retrouver. On parle toujours de l'absence des cuisiniers. Or, je soutiens qu'il y a une sorte d'escroquerie. Ces gens se prennent pour des vedettes. Bon, très bien. Seulement quand M. François Perrier est malade, il y a une affiche sur le théâtre, disant « Monsieur François Perrier est malade, c'est sa doublure, Monsieur Dupont ». On vous laisse, évidemment, l'opportunité d'entrer et de découvrir un nouveau François Perrier chez Monsieur Dupont, sinon on vous rembourse. Chez un cuisinier, non. Alors évidemment, il soutient, il dit « Mais lorsque je suis là, je ne fais pas tout, et c'est aussi bon, c'est ma cuisine ». Oui, mais quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et quelle est l'affaire dans laquelle, vraiment, les gens qui dirigent, même dans un service, dès que la personne qui dirige part, il y a toujours quelqu'un qui veut se révéler et qui croit mieux faire. Quelquefois, il peut mieux faire, mais d'autres fois, moins bien. Donc, je pense qu'il y a là une sorte d'escroquerie qui est grave, parce que pour moi, si nous parlons de grands cuisiniers, un grand repas est une fête. Bon, moi, j'ai la chance d'aller au restaurant 2 fois par jour. Je voyage à travers le monde 15 jours, 20 jours par mois. Je n'ai pas à me plaindre, je suis plutôt béni des dieux. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens, même qui ont des moyens, qui, avant de dépenser, parce qu'aujourd'hui, c'est 1000 francs pour deux minimum, dans un restaurant, dans un grand restaurant, entendons-nous, alors, ça devient une escroquerie si le cuisinier n'est pas là, donc le service est peut-être moins bon, la cuisine moins bonne, et on n'a aucun recours. C'est très important d'être un grand cuisinier, mais encore faut-il en être digne. Et pour moi, il faut faire beaucoup plus que de la grande cuisine.
On paye cher, on se fait gruger. Non, heureusement, pas souvent. Grâce à qui ? À ceux que l'on envie souvent et qui sont sérieux comme des papes, car la cuisine est une affaire grave. Le métier de critique gastronomique, Michel Piau.
Cette profession est extraordinaire. Elle est extrêmement, si on y réfléchit bien, elle est épouvantable parce que on a, de quel droit jugeons-nous justement ces professionnels ? Nous nous permettons... En n'ayant pas beaucoup plus de connaissances que le commun des mortels et que le consommateur moyen, nous nous permettons de critiquer ce que font des gens qui ont, du talent, du métier, et quelquefois du génie. C'est rare, mais ça arrive. Mais d'un autre côté, si on ne les juge pas, comment établir pour le consommateur, pour le client de ces restaurants, comment établir une espèce de hiérarchie et peut-être que là, on a effectivement une mission, peut-être plus que de guide, peut-être plus que de critique, une mission de guide un peu, peut-être, mais vraiment très modestement. Chacun a sa façon de voir son métier et les critiques gastronomiques entre eux ne se ressemblent pas tellement. En ce qui me concerne, j'essaye avant tout de réagir par mon plaisir. Si je prends du plaisir à goûter un plat, si j'ai envie de terminer mon assiette, voire de reprendre ce plat s'il était servi, non pas sur assiette mais sur plat, ensuite seulement, j'essaye de voir dans les minutes qui suivent pourquoi j'aime ce plat. À partir de là, je fais une espèce d'analyse. Mais disons que je ne fais pas l'analyse d'abord et le plaisir ensuite. C'est le plaisir d'abord et l'analyse ensuite. Mais vous me demandiez si j'avançais donc démasqué dans mon métier. Oui, j'avance démasqué. Et je tiens formellement à dire pourquoi. D'abord, j'ai horreur des identités fausses et l'idée de m'affubler d'un faux nom me hérisse la conscience avant même de le faire. C'est pourquoi je ne le fais jamais. Donc, je téléphone dans un restaurant, mettons un restaurant qui vient d'ouvrir ou un restaurant de province où je me trouve ce jour-là pour retenir ma table. Il est 10h du matin, je souhaite avoir une table pour 13h. Oui, monsieur, à quel nom ? Michel Piau. Combien de couverts ? 3 couverts, bien monsieur. À partir de là, on m'a peut-être reconnu, peut-être que ces gens-là lisent Le Figaro, peut-être pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où j'ai retenu ma table, il est donc vers 10h, 10h30 du matin, et le moment où j'arrive, c'est-à-dire vers 1h, il va se passer quoi ? Maximum 3h. Si la brigade de cuisine, si le cuisinier, si le chef cuisinier et sa brigade n'avaient pas de talent quand j'ai retenu ma table à 10h, ils ne peuvent pas en avoir, même en sachant que j'arrive, ils ne peuvent pas en avoir à 13h. On n'apprend pas le talent, on n'acquiert pas le talent en 3h. Qu'est-ce qui peut se passer ? Il peut se passer que on m'est effectivement reconnu et qu'on déroule ce que j'appelle le tapis rouge quand j'arrive, c'est-à-dire que l'on fasse assaut d'amabilité, que l'on me donne la meilleure table, que on me serve des portions ridiculement importantes par excès en disant il a certainement bon appétit, il faut lui en donner le double dose des autres. C'est ça qui peut arriver. Ou alors, ce qui peut arriver de pire encore, c'est que le cuisinier au talent incertain, avec un gentil petit talent, essaye de se surpasser et de faire mieux que ce qu'il sait faire. Et là, c'est terrible parce que 99 fois sur 100, excusez-moi l'expression un peu vulgaire, il se plante. Autrement dit, il n'y a aucune gêne à arriver sous son vrai nom et sous sa propre identité.
Qu'est-ce qui vous plaît tant dans votre métier ?
Bah, manger. Non, mais en général, on mange bien. Il n'y a pas de problème, quoi. Bon. Non, et puis, c'est un milieu qui est sympathique. C'est un milieu qui est sympathique. Moi, j'aime bien. Bon, de même que j'aime bien les viticulteurs, c'est pour ça aussi que je m'intéresse au vin. De même, j'aime bien ces gens de la cuisine et de la gastronomie, parce qu'ils sont à la fois des créateurs, des gens qui ont les pieds sur terre, des bons vivants. D'ailleurs, c'est moins triste de discuter avec des chefs qu'avec des universitaires, par exemple, au hasard. Il m'arrive de manger deux fois par jour au restaurant quand je suis en portage. Moi, je trouve ça très bien, parce que souvent, c'est deux bons restaurants. Bon, si je trouve pas ça terrible, je grignote, je laisse tomber, je veux pas discuter avec le chef. Si je trouve ça bon, ben je mange, je déguste, je demande à voir le chef, je me présente, et puis après avoir payé, toujours, c'est une règle de notre métier, après avoir payé, je me présente, et à ce moment-là, on discute, et c'est très sympa. On apprend des choses, on rigole, mais on s'ennuie pas, quoi.
La cérémonie alimentaire a provoqué depuis deux siècles les passions, passions avivées par les critiques gastronomiques, Jean-Paul Aron.
C'est la naissance des guides, vers 1810-1820, il y en a des quantités, et Grimaud de la Reynière qui donne le départ, c'est même sous le consulat, dans les toutes premières années du 19e siècle. Mais on a, même à cette époque, on n'a jamais autant écrit que nous, mais ça me donne l'occasion de dire que le discours, à notre époque, la parole sur la nourriture, est comme un substitut de la nourriture elle-même. On écrit davantage que l'on mange, et on mange, mais on mange ce que l'on écrit en réalité. Dans les années 60-70, justement, au moment du départ du guide Goemillot, et j'ai souvent dit cela à Christian Millot, qui est un ami et que j'aime beaucoup, il est évident que les cadres moyens qui sont la nouvelle clientèle des restaurants et pour lesquels, ou à propos desquels, un guide comme le Goemillot est venu à l'existence, les cadres moyens mangeaient en réalité le Goemillot plutôt que leur nourriture. Ils savaient à l'avance le repas qu'ils allaient faire. Et à l'heure actuelle, bien loin que les choses se soient remises en ordre, si l'on peut dire, et que le poids soit de nouveau du côté du réel, de la vérité, et pas seulement de ce qu'on en dit, du discours sur cette réalité. Je pense que, plus que jamais, nous vivons dans le simulacre, en général, et dans le simulacre alimentaire en particulier.
Bernard Loiseau, la Côte d'Or à Saulieu, deux étoiles au Michelin. Quoi ? Deux étoiles seulement au Michelin ?
Si la grande cuisine française est actuellement la meilleure cuisine au monde, c'est justement un peu grâce à cette stimulation des guides qui fait que les cuisiniers, ils ont toujours peur de se dire « Attention, qui c'est qui est dans la salle ? T'as vu, attention, t'as vu ? Il a un costume gris, une cravate noire, ça doit être un inspecteur Michelin. Attention, allez dessus, tout !» Donc vous voyez, tout ça, c'est le stress, c'est la tension et tout qui fait qu'on est toujours bon parce qu'on est toujours inquiet de s'en prendre un coup derrière les oreilles.
Décembre 87, après de longues tractations, j'ai enfin obtenu le rendez-vous avec un inspecteur du Michelin. Il ne me reçoit pas masqué, mais discret, charme discret, BCBG. Mais il ne me reçoit pas dans son bureau, non. J'aurais pu voir les nouvelles étoiles du prochain guide sur lequel il travaille. Je suis donc reçue dans une salle anonyme, éclairée au néon. Une salle de direction. Le directeur des inspecteurs du Michelin, Bernard Négelem.
Eh bien, il y a plusieurs façons de devenir inspecteur du Michelin. Ça dépend d'ailleurs de l'origine. En général, et ces dernières années, Nous avons choisi de prendre en majorité des gens qui viennent de la profession et qui souvent ont fait l'école hôtelière, une école hôtelière. Mais depuis toujours, il y a eu des inspecteurs qui venaient d'autres horizons et qui étaient tout simplement passionnés par les choses de la nourriture. Et il se révèle à l'usage que ces inspecteurs sont souvent, deviennent au fil des années, extrêmement compétents. Un inspecteur du Michelin doit avoir évidemment du palais, c'est sûr, et il doit avoir aussi, je dirais, une mémoire gustative. Parce que ça se passe comme ça, au début, n'est-ce pas, les inspecteurs sont en stage chez nous pendant un certain temps, pour qu'ils comprennent un peu la philosophie de notre guide, des étoiles en général.
Donc qu'est-ce qu'ils font pendant ce stage?
Alors pendant ce stage, eh bien, ils suivent d'autres inspecteurs chevronnés, pendant très longtemps, parce qu'il faut d'abord donc se mettre cette philosophie dans l'idée, et puis il faut également bien connaître la France et les différentes, je dirais presque les différentes gastronomies françaises, les spécialités régionales en particulier et certains plats traditionnels. Donc il va falloir qu'ils aient de la mémoire, car au fil de leur activité en général, il faut qu'ils enregistrent le meilleur plat qu'ils aient mangé dans cette catégorie, dans cette spécialité. Ainsi, il faut savoir que lorsqu'ils auront mangé un très bon cassoulet, ben, il faut qu'ils le mémorisent et ça va leur servir de référence à l'avenir. Et ça, c'est extrêmement important. Ceci en dehors de la nécessité d'avoir du palais et du nez d'ailleurs, car les vins rentrent également en compte dans nos expériences de table. Mais enfin, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un métier dans lequel on s'améliore constamment, car on en apprend constamment. On est toujours confronté à goûter de nouveaux plats, il faut quand même savoir s'ils sont bons, essayer de le savoir en tout cas. Donc, on peut dire qu'au bout de 2 ou 3 ans, un inspecteur commence à être bien dans sa fonction, mais après, il continue à s'améliorer constamment. Et ensuite, c'est un métier où il n'y a aucune lassitude, et ces gens-là font ça vraiment par passion, parce qu'également, c'est un peu dur. Il faut savoir que lorsqu'on mange, qu'on fait de bons repas, tout se passe bien, mais comme nous essayons toutes sortes de restaurants, il y en a aussi qui sont mauvais, et là, c'est très pénible.
Votre nom ?
Marlowe. Ma carte, détective privé.
Alors, l'emploi du temps d'un inspecteur est assez serré et très rempli. D'abord, nos inspecteurs travaillent entièrement pour nous et toute l'année. Et ils tournent en moyenne à peu près entre 180 et 200 jours par an, par tous les temps et par toutes les saisons. Ce qui fait que c'est assez difficile, car si c'est très agréable au printemps et à l'automne, l'hiver et en été, quand on n'arrive pas à se loger, c'est plutôt difficile. Alors l'emploi du temps, eh bien un inspecteur, en fait, lorsqu'il est sur la route, il travaille, on pourrait presque dire, 24 heures sur 24 pour le guide. Car en effet, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est amené à faire, dès l'instant qu'il se lève ou même quand il dort, il travaille pour le guide puisqu'il est en train de tester un hôtel. Alors, c'est des journées très remplies, suivies des repas. Et évidemment, il y a aussi beaucoup de rapports à faire et de réflexions à faire pour mettre ce guide à jour constamment.
Inspecteur, rapport, tout ça, tout ce vocabulaire sonne un peu comme un vocabulaire de police.
Non, pas du tout. Nous ne voulons pas du tout être des juges durs, etc. Non, pas du tout. Le guide est fait pour servir le lecteur. C'est-à-dire que le travail de l'inspecteur, c'est de se glisser dans la peau d'un touriste anonyme, d'aller défricher un peu le terrain pour lui et pour pouvoir lui dire après à ce touriste qui va acheter notre guide, de lui dire voilà, nous y avons été, nous pensons que c'est bien. C'est ça la finalité du guide, mais pas du tout d'être des juges durs.
Et l'anonymat ?
Alors l'anonymat, évidemment, nous y tenons énormément et nous y croyons profondément. Car en effet, c'est encore le meilleur moyen de se glisser dans la peau de ce touriste et d'être vraiment le touriste anonyme. Nous pensons que c'est vraiment la meilleure solution pour pouvoir tester soit une table, soit un hôtel.
Parce que vous pensez que si vous disiez que vous étiez inspecteur du Michelin, tout changerait du tout au tout?
Ah oui, certainement. Bien entendu, puisque notre audience est très grande auprès de la profession, il est bien évident que lorsqu'on est connu, ça change l'accueil. Bien entendu, ça ne va pas changer la nourriture dans les 5 minutes qui suivent, mais ça peut changer l'accueil, le service, et puis on peut quand même peut-être essayer de mettre de meilleurs produits. Mais nous y croyons beaucoup à l'anonymat et nous pensons que c'est vraiment la meilleure solution, oui.
S'il y a des inspecteurs, il y a des détectives et des espions. Hubert Couillou, sommelier et maître d'hôtel à la Côte d'Or, a plus d'un tour dans son sac. Les inspecteurs, les verraient-ils venir?
Je pense que oui. Oui, ce sont quand même des gens qui ont des attitudes bien particulières. Et ça aussi, ça fait partie du jeu donc de la profession, de repérer ces gens-là, les guides, notamment le guide Michelin. Ce sont des gens qu'on a quand même pas mal de détails nous permettent de dire ce monsieur-là est du guide Michelin.
Lesquels,
vous voulez tout savoir? En général, ce sont des gens qui sont habillés d'une manière assez classique, costume bleu marine, cravate, bon chic, bon genre, en général. Le style de la voiture aussi, ça peut quand même représenter quelques détails qui nous feront dire que ce monsieur-là est du guide Michelin, de la grande maison, comme on dit. Et puis à table, par des attitudes au niveau de la commande, au niveau des manger, enfin son comportement au niveau par rapport au personnel, par rapport à l'environnement. Ce sont souvent des gens qui viennent seuls. Enfin très souvent, pas tout le temps, mais enfin souvent.
C'est les commissaires de police du métier?
Oui, si l'on peut dire. Disons que ça représente pour tout restaurateur et cuisinier qui se respecte. Bon, ben, un peu le juge-arbitre, hein. C'est normal, le guide Michelin, c'est vraiment la Bible pour toute la profession et pour tous les gens qui s'intéressent à la gastronomie. Donc, oui, ce sont un peu les juges-arbitres, les professeurs d'école.
Votre nom?
Marlowe. Je suis ma carte, détective privé.
Nous avons des cartes, chaque inspecteur a une carte accréditive, comme quoi il vient du guide Michelin. Car, bien entendu, nous déjeunons, nous couchons dans les hôtels, et lorsque l'inspecteur a payé, car nous payons toutes nos notes, ce qui coûte d'ailleurs assez cher, ce qui fait beaucoup de frais, mais enfin, ça fait partie de l'anonymat, ce n'est qu'après avoir payé sa note que l'inspecteur décline son identité. Et il y a cette carte donc, qui permet à l'hôtelier de voir si c'est un vrai.
Il la décline dans tous les cas?
Non, il nous arrive tous les ans d'aller notamment dans des restaurants candidats à l'étoile ou qui ont l'étoile ou qui risquent de la perdre, de faire des essais de contrôle. Et dans ce cas-là, on fait passer comme un simple touriste. On ne décline pas son identité. Car cette expérience peut se répéter 3-4 fois jusqu'à temps qu'on puisse faire une opinion convenable sur le restaurant. En général, nous essayons, pour ce qui est des tables, n'est-ce pas, des restaurants, d'avoir une photographie d'un établissement étalée sur toute l'année. C'est-à-dire que nous envoyons un inspecteur, mettons en début d'année, et si son essai est favorable, défavorable ou dithyrambique, c'est-à-dire qu'il risque d'avoir une étoile supplémentaire, condition qu'il n'en ait pas trois, eh bien, Ces expériences stables sont après confirmées par un autre inspecteur, disons 2 mois plus tard. Et ainsi de suite, autant de fois que nous jugeons utile, pour justement pouvoir nous faire une opinion sur un restaurant ou un hôtel et de lui attribuer peut-être un classement supplémentaire. Voilà, alors nous procédons comme ça toute l'année à travers la France avec nos inspecteurs.
C'est vrai qu'on essaie en même temps de refaire la cuisine quand on goûte quelque chose. Je veux dire. Une bonne sauce, tout chef vous dira qu'une bonne sauce, c'est une sauce dont on ne distingue plus les ingrédients. Mais nous, on fait exprès d'essayer de les distinguer. Bon, c'est là où on ne mange pas comme tout le monde quand on fait ça. Bon, on le fait rarement, quoi. Sinon on se laisse aller. C'est évident, si c'est bon, c'est bon.
L'importance des guides suite et fin, Jean-Michel Lorrain, chef et fils de chef très étoilé à Joigny.
C'est vrai, les guides prennent une grande importance dans notre univers. Les restaurants, évidemment, sont recommandés par certains et non recommandés par d'autres. Quoique, en général, il y a une uniformité et les guides, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Hein, quand un restaurant est bon, il est en général encensé par l'ensemble des guides. Pour nous, on a vu l'évolution puisque la maison est partie de zéro. En 58, la maison n'était représentée dans aucun guide. Elle a fait son apparition en 62, je crois, pour la première fois, avec une petite fourchette au guide Michelin. Et puis, l'évolution s'est faite doucement. En 71, première étoile au Michelin. En 76, deuxième étoile. Et puis, 10 ans après, en 86, donc, troisième étoile, qui est quand même le summum dans ce guide. Alors, pour le Goemio et pour les autres, une évolution un petit peu plus tardive, parce que d'abord, ces guides-là sont venus un petit peu plus tard. Goemio est apparu, je crois, dans les années 70. Donc, on est arrivé au top, pareil, en 86. Donc, vous voyez que ça se suit. On est également au top dans le Champérard, qui a pris maintenant un petit peu d'importance, mais qui, lui, est tout nouveau. Il a 5 ans. Voilà. Mais c'est vrai que la place des guides est très, très importante. Elle nous amène, je parlerai également d'un guide comme les Relais Château. Et ces guides tous réunis, Relais Château, Michelin, Goemio et Champérard, représentent un apport de clientèle chez nous d'environ 60%. Donc vous voyez que, je ne dis pas que sans eux on ne travaillerait pas, mais ils sont là pour nous apporter notre clientèle et ils sont un petit peu notre fonds de commerce. Donc on aime ou on n'aime pas, mais il ne faut pas nier qu'ils nous apportent beaucoup de choses.
La peur de perdre sa troisième étoile, ça existe ?
Mais nous, on vient d'avoir. Alors, pour l'instant, on espère que ça ne se passera pas tout de suite. Mais c'est vrai que quand on est au top niveau, on a plus qu'une peur. Au départ, on a l'ambition de grimper. Et puis, quand on est au top niveau, on n'a qu'une peur, c'est de redescendre.
Magnétique, les plaisirs de la bouche numéro 4, ce soir, le restaurant Philippe Coudert.
On me pose la question souvent, pour toi, quel est le meilleur restaurant ? Autre forme de question, où est-ce qu'on peut aller dîner ce soir ? Donc ça correspond, bon, toi, qu'est-ce que tu as dans le restaurant ? Et moi, je dépends, mais alors, ça dépend de mon état d'âme, ça dépend avec qui je suis, comment je suis habillé, si je veux être vu ou me cacher, si je veux me montrer, si je veux montrer la femme qui est avec moi, si je veux me disputer, si je veux essayer de séduire. Non, mais il y a des restaurants pour tout. Donc j'attends tout ça d'un restaurant, mais en connaissance de cause. Je ne crois plus, j'ai jamais cru d'ailleurs tellement, au restaurant où on va prendre un repas comme à la messe. Vous comprenez le côté, il faut se confesser, pardonnez-moi mon père, j'ai mangé un cassoulet hier. Très bien mon fils, vous me boirez 3 éviens et pourrez venir manger mon plat demain. Ah non, 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 il y a des limites. Parce que je vous dis, dans un restaurant, quand je note un restaurant, la table pour moi ne compte que pour 40 ou 50% maximum. Et il y a des grands cuisiniers, d'authentiques grands cuisiniers qui sont d'accord. Le reste, c'est l'ambiance, l'atmosphère, les gens qui y sont. Mais je peux vous dire ce que j'attends d'un restaurant, c'est peut-être de m'amuser comme un fou avec une cuisine moyenne, À Paris, actuellement, il y a une sorte de mode des cafés à l'américaine, qui sont la redécouverte de nos brasseries d'avant-guerre. On s'y amuse comme des fous, ça vit, ça bouge, on y va en tricot comme ça, décontracté, ce qu'on y mange n'a plus tellement d'importance, et on passe une merveilleuse soirée au restaurant. Puis d'autres jours, on a envie soudain d'un plat. Or, ça peut être une choucroute, comme d'un plat sophistiqué, et on choisit en connaissance de cause. Ce que j'attends, c'est la satisfaction d'un désir de fête. Et je soutiens qu'il y a des restaurants pour tout, il y a des restaurants de rupture. Pour une rupture, vaut mieux choisir un instant chic, élégant, distingué, un peu ennuyeux et cher, parce qu'on ne peut pas vous accuser d'être radin. Si vous sortez avec une personne bien élevée, elle ne peut pas élever la voix, naturellement. Ça, elle se ferait remarquer. Et puis le personnel peut être tellement compassé, solennel, s'il sert une cuisine moyenne, il dit « oui, vous êtes venu là, mais c'est la fin de tout, c'est la fin de votre liaison et de la cuisine ». C'est ça le restaurant, c'est pour ça que c'est merveilleux. Et voilà tout ce que j'attends d'un restaurant, c'est une vie, un instant de plaisir absolu.
Le problème, c'est que la cuisine est rentrée dans les circuits de la mode,
Alain Schiffre.
Du design, de la griffe, du look, etc. Alors que c'est un domaine qui est extrêmement, beaucoup plus profond, qui est relié à notre enfance, qui est relié à des valeurs inconscientes, etc. Et je trouve que ça évolue assez mal, parce qu'on ne peut pas traiter l'alimentation comme on traite la mode, comme on traite des vêtements. Et je trouve qu'elle perd, elle gagne en, disons, en qualité, en invention, ce qu'elle perd en authenticité. Moi, je ne veux pas dire qu'on mange mal chez Rebuchon ou ailleurs. Je trouve ça formidable. Je dis simplement que il y a une chose que je constate, c'est que je suis toujours très heureux de manger dans un très grand restaurant, mais je n'ai jamais le plaisir que j'ai à manger dans une brasserie ou dans un bistrot. Il y a une espèce de coupure qui s'est faite. Alors, je trouve quand même très dommage de payer trois fois plus cher pour avoir trois fois moins de plaisir. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose. Il y a une disjonction qui n'est pas satisfaisante. Il y a maintenant, on va dans un grand restaurant, comme on va à un défilé de mode, c'est une soirée un peu prétentieuse avec des croquants en bouche, avec des petites assiettes pour patienter, avec des merveilleux vins, des verres en cristal et tout ça. Et il y a, il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas d'euphorie. Il y a une espèce de satisfaction intellectuelle, il y a un peu de snobisme, même pas mal. Il y a un raffinement, mais il n'y a pas toutes ces valeurs inconscientes de la cuisine qui sont le plaisir, la jouissance. Enfin, tout ça disparaît, je trouve. Et un personnage qui a complètement disparu de la circulation, qu'on retrouve qu'il y a quelques exemplaires qui sont pratiquement tous critiques gastronomiques, c'est le gourmand professionnel, enfin celui pour qui veut absolument manger de très bien deux fois par jour, qui va vraiment dans les restaurants par plaisir. Enfin bon, maintenant on va au restaurant une fois de temps en temps. C'est-à-dire, c'est devenu un luxe démocratique. Hein, c'est le luxe de masse. C'est-à-dire que ce n'est plus c'est quelque chose qui est complètement sorti du plaisir quotidien de la cuisine pour devenir un loisir, exactement comme les vacances. Et d'ailleurs, les grands restaurants de province ressemblent de plus en plus à des parcs de loisirs, avec piscines, etc. C'est-à-dire que je trouve que la cuisine est rentrée dans l'ère des loisirs. C'est devenu des petits clubs méditerranéens. C'est entre le club méditerranéen et Versailles, maintenant, les grands restaurants de province. C'est devenu un loisir. Et ce n'est plus un plaisir, c'est devenu un loisir.
Les grandes tablées, à mon avis, sauf des maniaques de la table, qui viennent à table pour parler des plats qu'ils ont mangés dans le restaurant précédent et qu'ils mangeront demain. Comme ceux qui font des voyages organisés. Vous savez, vous les rencontrez aux Antilles et vous disent « Ah, l'année dernière, on a fait le Tibet et cet hiver, on fait le Mexique. » Ils oublient qu'ils sont aux Antilles, mais ils parleront des Antilles quand ils seront au Mexique. Alors là, ça, les grandes tablées de soi-disant gastronomes au restaurant, ils viennent faire un numéro, ils font semblant de connaître les vins, de connaître les plats, et ils ont des références. Ah, l'année dernière, on était chez Duchemol, vous savez, au fin fond de l'Auvergne, on a mangé, c'était formidable. Alors là, là on peut partir accompagné si on a affaire à ces maniaques. Alors là, on peut faire un numéro, on peut dire n'importe quoi sur les vins, vous savez, il y a tout un vocabulaire sur les vins qu'on peut même inventer, c'est très facile. Et puis on a l'air d'être très savant. Thank you.
pour moi, le client idéal, c'est le client qui casse la cagnotte, qui a un rêve, qui se dit « Ah, il faut que j'aille dans cette grande maison », qui s'allie depuis des mois, qui se réunit avec des amis et qui vient pour faire la fête dans un grand restaurant. Alors cela, c'est le client, vous voyez ce que je veux dire, c'est pratiquement un client gagné d'avance, c'est un client qui va vraiment s'éclater, qui va trouver tout merveilleux et tout. Et le client le moins idéal, c'est le client qui bouffe midi et soir dans tous les grands restaurants, qui est complètement blasé de tout, qui passe tout en vue, qui soulève la nappe pour voir si c'est pas du nouveau pas en dessous, qui commence à bien toucher, voir si c'est du cristal et tout, l'emmerdeur quoi. Et le client idéal, c'est celui-là, c'est le client qui va rarement manger dans un grand restaurant et qui s'éclate.
Qu'est-ce qu'il y a de
Et celui-là, il va pas écrire au guide Michelin, je vous le dis tout de suite.
Vous savez qu'on s'est aperçu, il y a des expériences qui montrent que l'alimentation fonctionne comme la drogue. C'est-à-dire, il y a des centres de plaisir dans le cerveau qui sont sollicités par... on fait ça avec des rats. Et ça montre que on a des... quand on parle des goûts qu'on a, hein, quand j'aime ceci, cela, c'est aussi des besoins qu'on a. Et c'est des trucs qui s'impriment très tôt, enfin dans l'enfance. Alors peut-être que ça va changer, cela dit. Hein. Peut-être qu'on est les dernières générations à avoir besoin de retrouver la cuisine de notre enfance ou la cuisine de nos familles, toute notre vie. Peut-être que tous ces jeunes qui sont élevés directement maintenant avec des bolinos, du ketchup, etc., peut-être que ça sera ça, leur racine. Peut-être que c'est ça qu'ils auront besoin de retrouver, hein, peut-être. J'espère que non. Enfin bon, j'espère qu'il y aura encore un appétit pour la blanquette.
Fin de série, dernière séquence, fin de repas, même les cafés sont desservis. Tristesse de quitter ce monde des cuisiniers, l'épilogue appartient au plus fervent, au plus ancien, au merveilleux Jules Bourdeau.
Le plaisir qu'on a quand on a des gens qui n'ont pas vu depuis 2-3 mois, 4 mois, ou même des fois 3, 4 ans, 5 ans, qui viennent vous serrer la main et puis vous bavarder avec vous, c'est formidable ça. Croyez pas ? Eh si. Mais c'est ma raison de vivre ça. J'ai toujours les mêmes clients. J'ai des clients qui viennent tous les 15 ans, tous les 10 ans, tous les 7-8 ans. Ils me disent, vous êtes encore là? Je dis, pourquoi je ne serais pas là? Ils me disent, vous voulez que je foute le camp? Ils me disent, non, c'est pas ça. Ils me disent, au contraire, on est très content de vous voir. C'est exactement ce que je dis là, vous savez. C'est mon plaisir, c'est ma raison de vivre. Exactement. Je suis certain que si j'avais ça il y a quelques temps, je serais déjà mort. Je ne veux pas encore mourir quand même. Quoi. Jamais personne ne m'a rien dit pour quoi que ce soit. La question de la cuisine, il n'a jamais pas eu de coup de fil, rien du tout. C'est vrai. C'est souvent, j'ai des compliments, puis j'ai des gens que je ne comprends pas. Lui, il comprend presque tout, mais moi, je ne comprends pas. Very good, il me serre la main. Je comprends qu'ils sont contents. Ils foutent le camp comme ça, ils sont contents. Ils reviennent après, c'est tout. Ça vous fait rigoler, c'est tout.
Les plaisirs de la bouche, numéro 4, le restaurant, avec Jules Bourdeau, Fernand, Robert Vifian, Michel Crisold, Alain Chiffre, Philippe Coudert, Jean Ferniaud, Michel Piot, Jean-Paul Aron, Bernard Loiseau, Bernard Négelem, Jean-Michel Lorrain, Hubert Couillou. Les plaisirs de la bouche, cette série a été de main de maître, mixée et réalisée par Yann Parentoen depuis le début de la semaine, Bruno Sourcy, Laure Adler, Nuit Magnétique.
C'était Le Restaurant, la quatrième et dernière partie de la série « Les plaisirs de la bouche » de Laure Adler et Bruno Sourcy pour les Nuits magnétiques, diffusée pour la première fois le 1er janvier 1988.